Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de notre série portant sur les enjeux écologiques des prochaines élections européennes. Cette série fera intervenir plusieurs personnalités qui ont contribué au dossier que La Fabrique écologique vient de publier à ce sujet. Ce dossier est composé d'une trentaine de fiches sur les différents thèmes de la transition écologique et est librement accessible sur le site de La Fabrique écologique. Dans cet épisode, je reçois Lucille Schmitt, cofondatrice et vice-présidente de La Fabrique écologique, pour discuter des enjeux sociaux du Pacte vert. Lucille Schmitt, bonjour.
Bonjour.
Alors tout d'abord, je voudrais parler des critiques qui émanent autour des normes environnementales européennes. Beaucoup de chefs des gouvernements des États membres veulent un retour en arrière sur ces mesures. Alors on peut se demander, est-ce que le pacte vert a un avenir ?
Alors ce qui est intéressant, c'est effectivement cette actualité dans laquelle nous nous trouvons, avec une colère, une révolte des agriculteurs dans différents pays de l'Union européenne. C'est réparti très largement, ça concerne la Roumanie, les Pays-Bas, l'Allemagne, la France, la Belgique. Et tout est parti de l'idée portée par les agriculteurs qu'il y avait trop de normes environnementales. Par ailleurs, un certain nombre d'entre eux ont aussi mis en avant la faiblesse de leurs revenus et les inégalités qui existent pour cette profession. Pour cette raison même, le pacte vert, qui jusqu'à présent était vu de façon très juridique et avec une satisfaction réelle sur cette dynamique de normes environnementales créée depuis 2019 et l'arrivée d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne, donc toute cette approche juridique qui fait partie de l'ADN, il faut quand même le rappeler, de l'ADN de l'Union européenne, elle doit maintenant se confronter à un principe de réalité qui est que le droit ne transforme pas la réalité sociale par magie et que lorsqu'il s'agit à la fois de s'intéresser aux questions énergétiques, aux questions agricoles, à la biodiversité, aux enjeux de rénovation thermique, au fond, c'est l'ensemble des pans de la société qui sont affectés, qui sont touchés, qu'il y a le sentiment qu'il y aura des gagnants et des perdants. Et donc, le pacte vert a un avenir s'il, dans un deuxième temps, dans un acte 2, il peut avoir un volet social qui, pour l'instant, n'est pas suffisamment développé.
Justement, ce volet social, on va en parler, de cette Europe sociale qui peine à exister pour l'instant. Pourtant, pour que la transition soit acceptable par tous, on parle de transition juste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette notion-là et des conditions d'acceptabilité, justement, de la transition ?
Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que le terme de transition juste, il est en train de connaître une espèce d'actualité, un succès énorme, à la fois du côté des mouvements plus activistes, des ONG, et du côté des institutions. Parce que d'une certaine manière, il résume les défis qui sont devant nous d'associer le social et l'écologique et l'espèce de révélation, ou en tout cas le fait qu'on ne peut plus ignorer la question, qui est que ça ne va pas de soi. C'est pas par magie, là encore, que la révolution écologique va créer une justice sociale. Et donc ça signifie que faire exister la transition écologique, c'est l'adosser ou même la faire interagir avec une transition sociale. Alors, pour l'Union européenne, c'est un sujet particulier, c'est même un problème, parce que depuis qu'elle a été créée, on ne cesse de parler d'Europe sociale sans réussir à véritablement doter les institutions européennes d'un volet social structuré, substantiel, pour une raison très simple, c'est qu'il s'agit d'une compétence partagée au titre des traités, mais que c'est une compétence partagée dans laquelle les États membres ont la haute main pour des raisons qui tiennent aussi à leur culture et à la place qu'ils ont donnée aux politiques sociales dans la structuration de la nation. L'enjeu du salaire minimum, la question du taux de chômage, la façon dont on lutte contre les inégalités, c'est différent entre la France, entre l'Allemagne, entre les pays de l'Est. Donc l'Union européenne doit se pencher de nouveau sur ces questions sociales avec beaucoup plus d'acuité et d'importance, alors même que pour l'instant, la règle est l'unanimité lorsqu'il s'agit d'adopter des mesures sociales et qu'on voit bien que comme on part de situations très diverses d'un État à l'autre, obtenir l'unanimité, c'est compliqué. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 18% des citoyens de l'Union européenne sont touchés par la pauvreté. Donc c'est un chiffre très important, qu'on estime que plus de 40 millions d'entre eux sont dans un état de précarité énergétique, et ça montre que c'est un sujet qu'on ne peut esquiver. À partir de là, la transition juste, c'est non seulement avoir un concept, mais se doter des outils qui permettent de faire entrer ça dans la réalité, pas seulement du côté de l'interpellation des activistes ou du côté du travail des ONG, citons par exemple Negawatt et ses partenaires à l'échelle européenne autour d'un scénario qu'ils ont imaginé pour justement faire exister la transition juste, qui s'appelle le scénario Clever. À partir de là, ça signifie revoir assez substantiellement les masses budgétaires qui aujourd'hui sont affectées, par exemple, au fonds de transition juste qui a été mis en place dans le cadre du Pacte vert. C'est aussi avoir cette discussion sans aucun tabou, si je puis dire, au niveau des États membres. C'est donc devant nous un long chemin, mais c'est ce qu'on peut appeler l'étape 2 du Pacte vert. Puis je voudrais quand même rappeler une chose, c'est que le terme de Green Deal, il vient de la gauche. Il avait été au départ beaucoup porté par les Allemands, par les Grünen, et lorsque Ursula von der Leyen s'en est saisie pour devenir présidente de la Commission européenne par un vote du Parlement européen qui a été un vote difficile parce qu'elle n'était pas la candidate de son camp, qui est le camp du centre droit européen, lorsqu'elle s'en est saisie, elle s'en est saisie en quelque sorte en redéfinissant son contenu et sans y associer l'aspect social que les Grünen y associaient. Aujourd'hui, en fait, c'est revenir d'une certaine manière au sens originel du Green Deal qui est important pour que le Pacte vert existe.
Et quel est le récit du Pacte vert, alors ? Vous parlez de Ursula von der Leyen qui a un petit peu dépossédé ce volet social du Pacte vert.
Alors, on parle de plus en plus de récit lorsqu'il s'agit d'écologie, et d'ailleurs, c'est même devenu une sorte de tarte à la crème. Aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est surtout qu'il y a un contre-récit écologique, c'est-à-dire que ce qu'on craint par rapport aux élections de juin, c'est une très forte poussée de l'extrême droite et surtout une très forte poussée des idées de l'extrême droite, puisque une grande partie de la droite européenne semble se mettre sur leur logiciel, sur leur culture, avec le sentiment d'une régression environnementale associée à cette progression des idées de l'extrême droite. Donc face à ce contre-récit écologique, le récit qu'avait porté Ursula von der Leyen en 2019 et dans ce mandat qu'elle est en train d'achever, je rappelle qu'elle est candidate à sa succession et qu'elle est candidate à sa succession justement tout en disant qu'il faut mettre le pacte vert en pause, de la même manière que Emmanuel Macron, notre président de la République, qui pourtant avait soutenu Ursula von der Leyen et ce pacte vert. Donc le premier sujet sur ce récit du pacte vert, c'est d'abord de ne pas revenir sur le récit précédent. C'est-à-dire qu'il faut assumer tout ce qui a été fait en 2021 en adoptant ces directives, ce paquet de directives, de 12 directives, adoptées le 14 juillet 2021, Fit for 55, qui en fait disent qu'en 2030, il faut donc réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55%. À partir de là, donc, assumer ce qui a été dit dans le mandat précédent. Mais ajouter à ce récit, qui était un récit juridique et peut-être trop technocratique, en tout cas qui tombait d'en haut, y ajouter une dimension sur la question des comportements, sur la question du rayonnement de l'Union européenne par rapport au reste du monde, y adosser un volet de générosité sociale, si je puis dire, qui sinon fera que ce récit va juste petit à petit se rabougrir et être en quelque sorte cannibalisé par un contre-récit écologique.
C'est un petit peu toute la difficulté de la construction de l'Union européenne. En fait, ça ne va pas de soi, puisque l'Union européenne s'est construite autour d'un projet économique et des enjeux de croissance. On peut se poser la question de la compatibilité de ces enjeux européens avec la transition écologique et de sa mise en œuvre à l'échelle européenne.
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que dans les années 50, quand on construit l'Union européenne, je rappelle que on l'a construite autour du charbon et de l'acier, on a essayé de la construire autour des questions de défense, et puis la France s'y est opposée, on l'a construite autour de l'idée d'une agriculture productiviste, très productive, en tout cas intense en productivité, et exportatrice, et puis autour de la question de la libre concurrence. Je rappelle aussi que l'Union européenne a été un très bon élève par rapport d'abord au GATT puis à l'Organisation mondiale du commerce et que les questions environnementales qui se sont pourtant structurées au niveau de l'Union européenne dès les années 1970 l'ont été faites en quelque sorte dans une sorte d'univers parallèle par rapport à ce qu'étaient les politiques communes de l'Union européenne, les grandes politiques communes qui sont la politique de la concurrence, la politique commerciale, la politique d'agriculture, et puis quand même la politique de redistribution entre les différents territoires de l'Union européenne au fur et à mesure des élargissements. La question de la lutte contre les inégalités territoriales a conduit à affecter des sommes très substantielles, aujourd'hui un tiers du budget européen, sur ces enjeux de redistribution territoriale. Mais la question environnementale, elle s'est construite d'abord à l'initiative de certains individus, au niveau du Parlement européen, avant même d'ailleurs qu'il soit élu, et puis avec une volonté de rayonnement au niveau international. Par exemple, l'Union européenne est très importante dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Elle joue un rôle important dans les COP climat, mais de façon très juridique, sans y associer peut-être les enjeux d'abord budgétaires, financiers essentiels, et puis surtout comme si ça n'allait pas déranger le cours des choses et les principales politiques structurantes à l'échelle européenne. Aujourd'hui, en quelque sorte, intégrer la transition environnementale dans le projet de l'Union européenne, c'est se poser la question du commerce, par exemple, comme l'ont dit très justement les agriculteurs. Le libre-échange n'est pas en soi compatible avec la transition environnementale. Il implique un niveau d'égalisation des normes, il implique, et là c'est la question de la taxe carbone aux frontières qui est posée aujourd'hui, dans sa mise en œuvre, dans son concept, qu'elle a été adoptée dans le principe, c'est une très bonne chose, mais ça suppose de redéfinir complètement au fond la manière dont nous voyons l'articulation entre environnement et commerce, et ça suppose de placer la question environnementale avant la question commerciale, ce qui pose évidemment des sujets essentiels en termes de positionnement de puissance économique, de questions de déficit commercial éventuel. Donc ça oblige à se poser des questions économiques et de puissance qu'on a jusqu'à présent esquivées.
Et c'est la question de la sobriété aussi.
C'est la question de la sobriété. Alors pour l'instant, la France a poussé par exemple ce terme de sobriété dans le champ énergétique à l'échelle européenne. Mais ce qu'on voit bien, c'est que, d'ailleurs, on voit bien sufficiency, sobriety. Quand on regarde les occurrences en anglais, c'est beaucoup moins utilisé qu'en France. Et donc, on ne transcrit pas, on ne transpose pas à l'échelle européenne un terme parce qu'il a un succès culturel dans un État de l'Union, serait-ce la France. Et toute la question aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on parle de l'enjeu d'efficacité énergétique, c'est-à-dire au fond d'économies qui ont été faites à cause de la guerre en Ukraine, à un projet plus structurant sur le plan déjà de la sobriété énergétique. Et puis sur le plan des comportements, mais ça suppose, on ne fait pas non plus, on ne passe pas non plus d'une esquive en fait, ou en tout cas d'un blanc sur la question des comportements portés au niveau de l'Union européenne, à quelque chose qui aille de soi. Donc articuler les politiques publiques, des outils de politique publique sur le plan social et l'évolution des comportements, c'est-à-dire créer une société européenne sobre, tout ça c'est quelque chose d'assez compliqué et ça suppose que les institutions européennes s'intéressent vraiment à la relation avec les citoyens, ce qui est quelque chose que jusqu'à présent elles n'ont pas vraiment réussi à faire.
Vous parliez tout à l'heure de la redistribution territoriale à l'échelle européenne. Une des difficultés justement de l'échelon européen, c'est qu'il y a des disparités très importantes entre les États membres en termes de vulnérabilité aux risques environnementaux, comme les territoires du Sud qui sont beaucoup plus impactés et qui dépendent donc davantage de la solidarité européenne. Comment on fait pour construire une politique d'adaptation européenne ?
Oui, on voit bien qu'aujourd'hui, cet enjeu d'adaptation a trouvé une espèce de... Enfin, quelque part, est en train de nous sauter à la figure, alors même que pendant de longues années, voire des décennies, les pays du Nord considéraient que c'était d'abord un enjeu pour les pays du Sud. Aujourd'hui, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Union européenne, mais c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe, et tous les pays, effectivement, du pourtour méditerranéen, Italie, Espagne, Grèce, sont concernés. Alors, l'Union européenne a, ça c'est encore sa méthode, elle s'est intéressée de très longue date à ces questions d'adaptation, notamment en faisant de la collecte de connaissances et en développant des outils justement satellitaires qui montrent cette évolution très contrastée, comme vous le disiez, des territoires. Mais ça reste un sujet de compétences partagées avec les États membres. En général, quand on dit compétences partagées, ça veut dire que les États membres ont plus de compétences que les institutions européennes. Et donc, toute la question, c'est aujourd'hui, à partir de ce qu'on a observé, des connaissances dont on dispose, d'une manière assez unique dans le monde d'ailleurs, de pouvoir développer des outils qui permettent une collaboration adaptée aux territoires, et notamment avec les acteurs locaux. Par exemple, dans la nouvelle stratégie d'adaptation de l'Union européenne de 2021, il y a toute la question de dire comment on va travailler avec les maires en fait, des différents territoires. Mais ça suppose aussi la prise en compte d'institutions différentes dans les États. C'est-à-dire que si vous avez un État centralisé, il faudra davantage quand même travailler avec cet État et les acteurs locaux que dans un État fédéral. Donc il y a devant nous en fait, des sujets de modalités pratiques. Il ne suffit pas de décréter, la parole n'est pas performative au niveau de l'Union européenne, pas plus qu'au niveau des États. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est au fond d'associer un jeu d'acteurs différents lorsqu'il s'agit d'être efficace.
Merci beaucoup pour ces éclairages, Lucie Schmitt.
Je vous en prie.